Cliquez simplement. Antonin Niacarini vous les sert clair, net et précis dans le caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici le caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Le caucus avec Antonin Niacarini du lundi au jeudi à compter de midi avec la petite introduction, les manchettes et ça jusque vers 12h30. Vous mentionnez que Bo Horvat vient de marquer pour le Canada. C'est 3-0.
Yes.
Canada contre la Tchéquie au hockey masculin. La deuxième période vient de prendre fin. Anto, j'ai absolument besoin de toi.
Je t'écoute.
Parce que là, je comprends plus rien. Moi, hier, moi, d'un, je dois te le dire, je file vraiment good vibe only. Là. Je pense que tu l'as senti. Là.
Oui.
Je suis pro-olympique.
Oui.
Je vois déjà du studio les compétitions olympiques. J'ai 62 ans. Je vais être bénévole pour les Jeux olympiques. Écoute, il n'y a rien que je ne ferai pas pour qu'on les aille. D'accord?
Okay.
Fait que quand t'es comme ça, c'est que t'es vraiment good vibe, t'es vraiment très positif
oui.
dans la vie parce que t'es pas comme Mathias ou Jean-Pierre par texto qui disent oh, les infrastructures, les coûts. Non, non, non. Tu rêves. Tu think big, stick, comme Elvis Graton. OK?
Mm-hmm.
Bon, cela dit, hier, on avait Alex Boissonneau en entrevue
oui.
Du côté du PQ. Puis là, moi, j'étais prêt. Hein? Là, j'étais prêt à être de mauvaise humeur avec Alex Boissonneau.
Ouais. Okay.
Ah ouais, là, j'étais prêt à le traiter de maudit séparatiste
ouais.
qui veut pas accueillir d'immigrants.
Exact.
Parce qu'on le sait, Jacques Parizeau nous l'a dit, c'est l'argent puis les votes immigrants qui nous ont empêchés de gagner le référendum de 95. Fait que là, j'étais prêt à dire à Alex Boissonneau, « Hey, mon Boissonneau, pourquoi tu veux pas garder le monde qui sont ici depuis 2 ans, qui travaillent puis qui parlent français? » Il m'a complètement décontenancé. Il m'a répondu ça.
Ben, en fait, c'est ça. Donc, juste pour être bien clair, moi, la question que j'ai posée hier, c'est est-ce qu'on peut avoir les chiffres? Est-ce qu'on peut savoir de combien de personnes on parle puis quels programmes sont touchés? Parce que clause grand-père, nous autres, on est d'accord. On l'a dit,
d'accord.
Ce qu'on dit, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une clause grand-père pour les travailleurs étrangers qui se trouvaient ici en 2025, on a suspendu le programme du PEC, mais qui étaient là en fonction ou dans les programmes qui relèvent du gouvernement du Québec. Donc, depuis 2024, nous, ce qu'on dit, c'est que lorsqu'il s'agit de permanentiser des gens qui se trouvent sur le territoire, il faut déjà utiliser les ressources qu'on a, des gens qui se trouvent en région, dans des secteurs d'économie où il y a une pénurie de main-d'œuvre. Mais pour ça, décréter un moratoire sur l'immigration économique permanente à l'international pour justement favoriser les gens qui sont déjà ici. Donc, là-dessus, on s'entend.
Ben là, pourquoi on m'a toujours dit que le PQ n'en voulait pas d'immigration? Pourquoi on m'a toujours dit que la CAQ n'en voulait pas? Mais là, Bernard Drinville, Christine Fréchette annoncent chacun de leur bord des clauses grand-père. Je comprends plus rien. Ils sont censés être les méchants. Les bons, c'est censé être les libéraux puis QS qui veulent ouvrir
le
Québec à planète entière.
Qui, par bonté d'âme, veut recevoir
le secteur économique aussi. Là, je comprends plus rien. Comment ça, le PQ rendu d'un bon, Christine Fréchette aussi, c'est qui le méchant? Tu sais, c'était facile pour moi, là. PQ, CAQ, vous êtes des méchants, vous en voulez pas. Libéraux, QS, vous en voulez trop. L'économie, vous autres, vous êtes les bons.
Puis, OK, on va commencer un à la fois. Mettons, juste la CAQ.
Oui.
Là, Bernard Drinville, pendant le début de la campagne, pour foutre un peu le trouble, dit « Moi, je suis pour ça, la clause grand-père. »
Oui.
Là, tu dis « Oh! Il veut plus d'immigrants, il veut monter ça, il veut
ben oui.
une clause grand-père dans un potentiel bassin de 300 000 personnes. » Fait qu'il veut plus d'immigrants.
Ben oui.
Mais là, finalement, Christine Fréchette bouge, puis dit « Bon, regarde, moi, je veux pas donner clause grand-père, mais je veux rouvrir le PEC pour permettre à ces personnes-là de terminer de financer
ouais.
une clause grand-père. » Mais non, c'est pas une clause grand-père.
C'est...
Puis là, Bernard Drinville dit « Wow, 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 là, ça m'a tout l'air d'un bar ouvert, ça. »
Ben oui!
Fait que là, qui est pro, contre, immigration, clause grand-père, pas clause grand-père? Puis ça, c'est juste le même parti!
Oui, puis là, t'as vu là, Bernard Drinville aussi dit « Wow, wow, wow! Faudrait réviser notre façon de voter à la CAQ! »
Oui!
Il y a des gens que ça fait 6 mois qui sont au Québec qui vont voter. Ça n'a pas d'allure, ça!
Puis peut-être qu'il y avait des immigrants temporaires qui se disaient « Hey, moi, je vais prendre ma carte de membre. » Puis, je vais voter pour Bernard.
Je vais voter Bernard. Mais
parce
là, Christine.
Tu veux me donner une clause grand-père?
Mais là, c'est Christine,
non.
finalement,
ben
qui
oui.
me donne.
Hey.
Fait que là, Bernard dit hey, il faudrait pas qu'ils votent, eux autres.
Bon, fait que ça, c'est juste la CAQ.
OK, okay? On est déjà mêlés, là.
Donc, déjà, tout le monde veut une clause grand-père, mais personne veut une clause grand-père. Retenez ça.
Dans la CAQ, ça.
Dans la CAQ.
Oui, puis là, ils sont obligés de se démerder. François Legault est obligé de se lever pour dire hey. Le PSTQ, c'est bon, mais il n'y a pas personne qui va faire le programme spécialisé pour les travailleurs qualifiés.
Non.
Dans les deux chefs qui sont présentement dans la course. Fait
écoute,
que si c'était si bon, il y en a un des deux qui le ferait.
OK. Là, je reviens à Alex Boissonneau. OK?
Ouais.
Parce que ce qu'il dit, honnêtement, même si tu trouves ça mélangeant, c'est juste vrai. C'est que Il y a des gens qui nous disent « Ah, oh, ça va être pas beaucoup de monde là, si on donne une clause grand-père, là, ça va être 20 000 personnes. » J'ai entendu ça comme chiffre, 20 000 personnes. Juste à Québec, ce que le maire Marchand demande, c'est 19 000 personnes. Je crée bien que ça sera pas 20 000 à l'échelle du Québec, c'est,
ben non, c'est
20 000
ça.
À Québec. Et on le sait aussi que ça sera pas 300 000.
Non.
C'est, fait que c'est quelque part entre 20 000
puis 300
000. 000.
Mais est-ce que quelqu'un peut me donner le chiffre?
Non, personne ne peut te donner le
chiffre. Il n'y a personne qui le
parce
dit,
qu'il faudrait rentrer dans la tête du monde qui pensait peut-être appliquer au PEC. Puis ce que le PQ dit, c'est nous, on ne peut pas dire oui, non, si je ne sais pas de combien de personnes il s'agit. On fait une planification de l'immigration. On se met des seuils en place. On peut faire preuve de flexibilité, mais à un moment donné, il faut planifier l'immigration. Bien, le plan d'immigration qu'on a fait lors des dernières planifications, il n'y a plus rien qui tient. Là, on est rendu que ça va être n'importe quoi, finalement, les seuils d'immigration. Donc, moi, je suis un peu d'accord avec le PQ. Et finalement, Jean-François Roberge, la solution qu'il proposait, n'était peut-être pas parfaite. Puis moi, je pense qu'on pouvait faire preuve d'encore plus de flexibilité pour accommoder les gens qui sont déjà ici, effectivement, et qui se sont supposément fait faire des promesses. D'ailleurs, j'aimerais ça savoir qui a promis quoi à qui. OK? Parce que j'entends les témoignages et je suis très sensible aux témoignages. Et moi aussi, je trouve ça absurde de mettre dehors des Français qui travaillent.
Ben oui. Tu sais, je vais donner l'exemple. On a eu une auditrice, justement, à qui on a parlé. Elle est coiffeuse. Son mari travaille l'hiver dans le déneigement, l'été dans les toitures. Mais là, parce qu'ils sont pas dans des métiers dits spécialisés, ça fait 3 ans qu'ils sont ici, ils parlent entièrement français, les enfants sont à l'école, on va leur dire ciao, bye.
Ben, leurs impôts, ils travaillent.
Ben, bon. Ça, je me dis, boah!
Oui, mais en même temps, il y a toujours des gens qui vont... Tu sais, je veux dire, il y a des seuils d'immigration. Puis à un moment donné, la clôture va se fermer devant toi, puis ça va être triste pour...
Ouais.
On n'arrêtera pas de décevoir des gens. Par
fait
contre,
là,
ça a l'air qu'il y a des gens...
T'es en train de me dire, laisse ton côté humain de côté?
Non, je suis en train de te dire qu'il faut faire un peu l'équilibre entre les statistiques, les seuils d'immigration, puis le côté humain. C'est qu'à un moment donné, si on est si humain que ça, il faudrait accueillir tout le monde, c'est pas possible non plus. Fait que,
c'est, faut assumer, c'est vrai, c'est un bon point.
Il faut assumer à un moment donné. Par contre, quand on montre des faux espoirs à des gens, puis qu'après ça, on change les règles, mais là, ça ne fonctionne pas. Il faut faire des mesures transitoires. Et je ne comprends pas pourquoi le gouvernement n'a pas mis ces mesures transitoires dès le départ à l'annonce de la fermeture du PEC. Ils ont refait la même erreur qu'ils ont fait en 2019 avec Simon-Jeanin Barrette quand ils ont sacré un paquet de dossiers d'invidange là, avec la réforme du PEC. Donc, on refait toujours la même erreur. Mais la solution de M. Roberge, je dis, écoutez, appliquez dans le PSTQ et on fera preuve de plus de flexibilité. Pour moi, je trouve que c'est la solution. Par contre, je veux qu'on dise la vérité aux gens. Combien d'immigrants permanents supplémentaires va-t-on accueillir de plus que les seuils de 50 000 en 2026, en 2027 et en 2028?
Parce que c'est eux qui vont passer par le PEC qui va rester ouvert pendant 2 ans, c'est Christine Fréchette qui est élue.
Bien, semblerait. Mais même si que tu les rentres dans le PEC ou tu les rentres dans le PSTQ, là, on s'entend pour dire qu'il faut mettre des mesures transitoires. Après ça, moi, je m'en fous. Je trouve ça un peu ridicule de rouvrir le PEC, honnêtement, parce que quand tu vas le refermer, tu vas recréer un autre mélodrame. Politiquement, c'est pas une bonne idée. Mais cela dit, ils font mettre ce qu'ils veulent. Là.
Toi, conseillère politique, t'aurais dit à Christine Fréchette, trouve pas le PEC, envoie ça comme Roberge le disait dans le PSTQ, mais revois juste tes seuils à la hausse pour qu'il y en ait qui puissent entrer dedans.
Fais un sous-programme d'exception dans le PSTQ où la coiffeuse va réussir à se qualifier, là, puis qu'elle se qualifiera peut-être pas des années suivantes. Par contre, il faut allonger aussi les permis de travail pour donner la chance aux gens de ne pas être expulsés par le fédéral dans l'entretemps. Et d'ailleurs, j'aimerais dire que... Écoute, j'ai un quiz pour toi, Jeff, qui vise toujours à te rendre mal à l'aise et à que tu aies l'air fou, mais c'est mon point.
Je suis super content.
Nomme-moi la ministre de l'immigration fédérale.
Hey, c'est vrai, c'est qui, donc, la ministre de l'immigration fédérale? Parce qu'on entend toujours Joël Lightbound en parler. C'est pas Anita Allen?
Non.
Dang, c'est qui?
Une madame qui s'appelle Madame Diab. OK, j'ai oublié son prénom, vous m'excuserez. Okay. Parce qu'on la voit jamais.
Ben non!
Mais... OK? Puis tu peux essayer de faire des demandes d'entrevue. On pourrait le faire en blague, là. Dans les 2 prochaines semaines, on demande des entrevues à tous les jours. Elle viendra jamais.
Elle viendra jamais.
C'est pas parce qu'elle parle pas français, elle parle français.
Elle parle français, OK, parce que c'était mon autre affaire. Là. J'allais dire, est-ce qu'elle va nous dire que les queues s'emballent, là? Mais là
non, elle n'est pas supposée. Elle parle bien français. Elle vient, elle vient du Nouveau-Brunswick. Donc, elle est complètement invisible. Et le fédéral a décidé drastiquement de couper dans les permis de travail. Moi, c'est une autre affaire. Eux aussi devraient mettre des mesures transitoires. On peut pas être le bord ouvert des travailleurs étrangers temporaires, puis tout à coup, hop, c'est fini, puis on en met à la porte 150 000. Pourquoi? Faites donc des politiques d'immigration sur le long terme un petit peu plus. Puis quand tu changes une règle, tu sais, évacue les gens qui sont arrivés dans le cadre des anciennes règles avant de mettre en application les nouvelles règles. Il me semble que c'est pas si compliqué que ça. Mais bref, cette question d'immigration à la CAQ, c'est vraiment l'illustration parfaite de pourquoi c'était pas une bonne idée de faire une course de 2 mois avec le Parlement ouvert, avec plein de dossiers en suspens.
Lambert Drinville nous a dit la même chose hier. Il a dit « Quand est-ce qu'on va proroger ce Parlement? »
Mais même si tu le proroges, l'affaire, c'est que la prorogation, c'est une bonne idée parce que les périodes de questions viennent amplifier la problématique. Parce que les oppositions utilisent...
D'ailleurs, j'écoutais Marc Tanguay à François Legault.
C'est du bonbon, là.
C'est du bonbon,
ben
là.
Oui, c'est trop facile.
Les jeux de mots qu'il fait, c'est hallucinant. Là. Oui. Il fait juste s'amuser avec la CAQ à l'heure actuelle. Mais il y a un animal blessé en avant de lui, puis il tend un petit bonbon, puis let's
mais
go. Là.
Les gens qui sont contre la prorogation, les oppositions notamment, vont vous dire, le but, c'est pas de fermer le Parlement puis d'arrêter le pouvoir législatif de siéger. L'objectif, c'est arrêter que le gouvernement ne gère pas ça tout croche.
Ouais.
Parce qu'eux autres, ils veulent pas qu'on ferme le Parlement, les oppositions. On s'entend, là, c'est eux, la période de questions, c'est le highlight de leur semaine. Pour le gouvernement, c'est pas ça. Le highlight de la vie d'un ministre, c'est quand il rentre dans son cabinet et qu'il peut faire avancer ses dossiers
ben
et
oui.
pas répondre aux questions de l'opposition. Sauf que moi, je pense qu'on réserve une course beaucoup plus courte. Je pense que M. Legault, en tout respect, aurait dû quitter et nommer Éric Girard comme chef intérimaire.
Oui, parce que là, tout le monde est pour le troisième lien. Là, le PSTQ, c'est bon. Fait que là, il met encore son image et ses pensées à la CAQ.
Oui.
Puis ça force, justement, une Christine Fréchette souvent à revoir ses positions parce qu'elle veut pas se coller sur leur logo. Elle va perdre, ça se colle dessus.
Ben c'est ça. Fait que là, tout le monde est terriblement mal à l'aise. Et je dois dire que je trouve que M. Drinville en profite davantage. Parce que quand on regardait le début de la course à la chefferie, ben, on trouvait que Mme Fréchette s'en allait vers une victoire. Tu regardais les sondages, c'était assez clair. Et M. Drinville, lui, devait brasser la cage. Donc, je pense qu'il profite un peu plus du chaos présentement.
Ben oui.
Parce que Mme Fréchette a l'air de, excusez-moi, là, de moins bien prendre la chaleur.
Oui.
Tu sais, la question du PEC, moi, j'ai trouvé que c'était une très mauvaise décision de ne pas maintenir la position qu'elle avait. De dire, écoutez, ça va passer par le PSTQ. Par contre, savez-vous quoi? On va être plus généreux. On va mettre des critères un peu moins serrés pour les gens qui étaient déjà ici. Donc, ça va équivaloir à une clause grand-père. Mais là, dire, on va rouvrir le PEC et annoncer ça sur Facebook 10 minutes avant la période de questions pour Jean-François Roberge.
Ben, en n'ayant même pas parlé à Jean-François Roberge.
Ben, je ne sais pas si ils se sont parlé. Puis,
il a dit hier que.
Elle l'a appris de même. Là.
Elle l'a informé. That's it.
Moi, je trouve ça épouvantable parce que. Il reste encore quelques députés et ministres qui sont importants comme appui dans cette course-là. Je pense à Lionel Carman, je pense à Martine Biron. Et c'est pas banal, Martine Biron. Peut-être que ça vous vient moins vite en tête, sauf que c'est l'autre député qui est sur la Rive-Sud.
Oui.
Donc, si Mme Fréchette présente une position du troisième lien et que Mme Biron appuie Christine Fréchette, ça risque de l'aider dans la région de Québec et de faire un peu suer Bernard Drinville.
Dans un cas où, c'est ça qui semble annoncer, Christine Fréchette gagne, on voyait des pourcentages quand même hauts pour la CAQ dans les sondages. Est-ce que ce qu'on voit présentement à la CAQ commence déjà à faire mal à un potentiel chef qui pourrait arriver après?
Bien, moi, je pense que oui. Je pense que, d'un côté, le fait de se faire brasser par Bernard Drinville, puis je vais donner d'autres exemples juste après, ça permet à Mme Fréchette d'être testée parce qu'après, elle va se faire attaquer par les oppositions, elle va partir en élection l'automne prochain, si elle gagne, bien sûr. Et c'est bien d'avoir, disons, passé une certaine épreuve. C'est comme un entraînement sportif, là, finalement. Par contre, il ne faut pas se blesser pendant l'entraînement, n'est-ce pas? Donc, M. Drinville, s'il va trop fort et qu'il ne gagne pas son pari à lui de gagner la course à la chefferie, il risque de maganer la chef de son parti. Donc, il joue un peu le tout pour le tout. Et c'est sûr qu'on peut se poser la question sur ça sert l'intérêt de qui. Lui, il doit être très, très convaincu que l'intérêt de la CAQ, c'est que lui, il gagne la prochaine campagne. Mais pour l'instant, c'est vrai, quand on regarde les sondages, on se demande comment, sur quoi il s'appuie pour dire ça. On verra. M. Drinville a lancé d'autres pavés dans la marche. Je le trouve vraiment à l'offensive dans les derniers jours. Le PEC a réussi à faire bouger Mme Fréchette. C'est un coup de maître parce que là, il a l'air d'être moins pro-immigration qu'elle, tout en ayant demandé une clause grand-père. C'est vraiment fascinant. Sur le troisième lien, sa position est très claire et elle est précise depuis le début de la campagne, alors que Mme Fréchette tergiverse. On me dit qu'au cours de la semaine prochaine, on devrait avoir une position sur le troisième lien.
Et on va souhaiter qu'au cours de la semaine prochaine, elle vienne s'asseoir ici avec nous.
On l'invite chaleureusement à venir nous expliquer tout ça si elle a cette position sur le troisième lien. Et si la position n'est pas encore annoncée, elle est la bienvenue pour venir nous parler aussi de d'autres sujets.
Exactement.
Là, M. Drinville, hier, a attaqué les règles de la course à la chefferie.
Ben oui.
Tu le disais tantôt, il ne veut pas que les non-citoyens puissent voter dans le cadre de la course à la chefferie. Peu importe ce qu'on pense sur le fond, parce que moi, je ne pense pas que c'est un énorme enjeu, surtout que tout le monde est tout mélangé sur les positions dans l'immigration. Fait que même une mobilisation de non-résidents, je ne suis pas sûre que ça se
Non, c'est ça. Ça ne prend pas comme la mobilisation de fermiers contre Maxime Bernier, au Parti conservateur du Canada.
Parce qu'il était contre la gestion de l'offre.
On remercie d'ailleurs ces fermiers-là de l'avoir fait. Imaginez si Maxime Bernier avait gagné la chefferie du Parti conservateur du Canada.
Ben, je pense que le Parti libéral serait au pouvoir pour toujours.
C'est ça. Quand hier, il est sorti pour dire « Voyez, je vous l'avais dit, les trans, tous les trans sont des meurtriers, sont des tueurs en série. »
Les statistiques sont pas de son avis.
Non, c'est ça.
Donc là, M. Drainville remet en question les règles de la course à la chefferie, ce qui va forcer Christine Fréchette nécessairement à se positionner, encore une
fois.
C'est clair. Puis à dire soit « Ah ben Bernard a raison » ou « Non, moi je veux que les non-citoyens puissent voter. » Donc c'est un lose-lose pour Christine Fréchette. Et rappelons aussi que M. Drainville a demandé davantage de débats, parce qu'il y a deux débats, un le 21 mars, un le 28 mars, qui seront animés par l'ancien chef d'antenne Pierre Jobin, cela dit. Mme Fréchette ne veut pas avoir davantage de débats. Donc, tu sais, le monde se dit « Ah, ben là, elle a peur, elle est prudente, pourquoi elle ne veut pas débattre, etc. » Donc, il est très fort. M. Drainville connaît tous les trucs dans le grand livre des campagnes et des courses à la chefferie, mais est-ce qu'il est capable d'aller chercher la faveur des électeurs dans une élection générale? Évidemment, c'est la question qui demeure.
Exactement. On a des beaux textos qui rentrent, notamment une personne qui dit que... Elle est en France, elle a déménagé en 2014 pour sa maîtrise à l'Université Laval. Elle y est toujours. Papa est fraîchement propriétaire d'une maison dans Limoilou. Donc, évidemment, on a des beaux exemples comme ça là, avec l'immigration. J'aime toujours ça le rappeler. PO qui mentionne quelque chose qui, moi, pour moi, faisait. C'est exactement ce que la CAQ proposait. Là. Tu fermes le PEC, t'envoies tout le monde dans le PSTQ, puis tu te dis, ben, coup d'onté, c'est. Si tu te qualifies là-dedans, ben, tant mieux, tu restes. Sinon, ben, malheureusement. Ça aurait été un passage à Québec ou au Québec là, pour toi. C'est ce qu'on privilégiait, mais évidemment, là, les colonnes du temple ont tremblé.
Il y a une grosse mobilisation qui a eu lieu. Et puis c'est sûr que quand tous les maires du Québec puis tout le secteur privé met de la pression, les syndicats également, il y a de la pression. Mais tu sais, à un moment donné, ça ne pourra pas être ça à tous les deux ans non plus. Là, parce que des seuils d'immigration, ils ne sont pas mis pour rien. Il y a une capacité d'accueil également. C'est juste qu'il faut que nos politiques soient en phase avec ce qu'on dit aux gens.
En plein ça.
On les attire ici en leur disant quelque chose. Donc là, à un moment donné, il faut livrer.
En effet, t'as entièrement raison. On est dans le caucus avec Antonine Iacarini. C'est du lundi au jeudi à compter de midi. Antonine, parlant de colonne du temple, il y a un juge que je connaissais pas, moi, le juge Fournier, qui a déposé un rapport et qui a parlé hier au bilan. Je te laisse entendre parce que là, il a parlé de montage sur les textos de Brownings.
Comment pouvez-vous... Non, c'est pas exactement ça, si vous permettez. Dans un premier temps, il y a eu des textos, une série de textos qui datent, qui est datée là, entre le 11 et le 13 avril. Ces textos-là ont été envoyés à Mme Lacoyanne, qui était députée de Chaumédé, et M. Fortin, du Journal de Montréal, a communiqué avec Mme Lacoyanne. Ah. M. Fortin lui a demandé si c'était vrai.
Bref, on comprend dans tout ça que le juge Fournier est arrivé pour produire un rapport. Puis là, il a parlé avec un peu tout le monde, mais il n'a pas la... Il n'est pas capable, en raison que c'est une enquête indépendante, de dire « OK, Journal de Montréal, fournissez-moi vos preuves » comme un peu un commissaire Lefray, comme le commissaire Galland Frais, exactement. Fait que dans le fond, il produit un rapport en disant « Ben, je pense que ça a été un montage, puis je pense que c'est ça, puis je pense que c'est ça. » Puis là, on comprend qu'on essaie le plus possible de préserver la réputation de Pablo Rodriguez. Je suis dans le champ.
Ben, écoute, non, t'es pas dans le champ. Premièrement, je tiens à dire que c'est une opération de communication qui est assez réussie, parce que hier, les titres, c'était un rapport conclu à un montage.
Oui.
Puis tu sais, les gens, ils lisent souvent juste les titres, puis je me suis dit, attendez un instant, là. C'est beaucoup plus nuancé que ça.
Ben non, c'est
ça. Un rapport du Parti libéral. Juge qui dit que c'était un chien de chasse édenté, il dit ça lui-même de ses moyens, conclut que c'est peut-être un montage.
Mais ça venait de la presse.
Ben oui, parce que c'est une stratégie.
On a des petits billets, des fois, les médias.
Le Devoir aussi a titré des textos sur les brownies au PIQ sont un montage.
Oui, mais ça a commencé par un exclusif à la presse. Okay? Puis en tant que personne qui a fait des relations de presse une bonne partie de sa vie, donner un exclusif à un média qui est gentil avec toi, c'est sûr que ça aligne la nouvelle.
Après, c'est clair.
Les gens ont plus tendance à reprendre un peu des fois la même chose, au moins dans les premières heures.
Ouais.
Donc, ça a comme... Moi, j'étais hier dans un événement, là, j'étais pas partout en train d'écouter les nouvelles, j'étais bien occupée, puis tu sais, je vois ça apparaître, puis je me dis, hey! Ils ont prouvé que c'est un montage. Puis là, après ça, tu lis les petits caractères et tu dis, ben non, c'est pas exactement ça. Donc, moi, ce que j'ai compris de l'explication de M. Fournier, c'est que... Et ça concorde avec ce que des sources m'avaient dit pendant la crise. Et des sources caquistes et libérales, OK?
Parfait.
Que si tu regardes les textos qui ont été publiés par le journal versus les textos qui leur avaient été soumis, parce que le bureau d'enquête avait contacté les partis politiques à l'époque, notamment à la CAQ, pour dire, là, on a des textos de Mme Abou Khalil, une des députées de Laval de la CAQ, qui jaserait avec Sona Lakoyanne de ça. Et, bon, on m'a donné une explication que j'ai achetée. Et à partir de ce moment-là, moi, je n'ai jamais cru que Mme Abou Khalil était liée à ça. Après ça, pour Mme Lakoyanne, je ne le sais pas. Mais je me suis dit, comment on fait pour démontrer que ces textos-là sont vrais? Et c'est ça que Pablo Rodriguez a demandé au journal quand il a fait sa mise en demeure. Il a dit, je ne veux pas savoir vos sources. Je veux que vous nous démontriez comment vous faites pour valider. Parce que moi, là, je peux écrire à Mathias tantôt. On change nos noms là, dans nos fiches contacts.
Oui.
Là. Puis là, tu t'appelles François Legault. Puis moi, je m'appelle Pauline Marois. Puis là, je te dis, je te livre...
Tu me dis n'importe quoi.
Je te dis n'importe quoi. Là, on fait une capture d'écran, on envoie ça à des journalistes.
Tu dis le livre bleu, c'est de la crotte. Je sais bien, on n'est plus souverainistes.
Puis le boulevard, on sort une grosse exclusivité puis on part en émission spéciale avec ça. Je te dis pas que les journalistes du Journal de Montréal ne sont pas rigoureux. Je dis juste que c'est normal qu'on s'interroge parce que de nos jours, et ça va être de plus en plus le cas, parce que c'est facile maintenant pour tout le monde de produire toutes sortes d'affaires avec un ordinateur.
Mm-hmm.
Donc, je trouvais que, disons que dans le système de justice, le doute raisonnable, c'est suffisant pour disculper quelqu'un. Hein, t'sais, non coupable.
Ouais.
En politique, c'est pas le cas. Et là, il reste une enquête de l'UPAC, une enquête du directeur général des élections, la poursuite de Geneviève Vince envers Marois Risky. Donc, il y a plein...
Une enquête de la commissaire à l'éthique aussi.
Et l'enquête de la commissaire à l'éthique. Donc, il nous reste plein de morceaux de puzzle. Et évidemment, je ne m'attendais pas à ce que le rapport qui a été commandé par le Parti libéral soit catastrophique pour le Parti libéral. Mais mon avis personnel, je n'ai jamais parlé de ces textos-là comme étant la vérité solide, vérifiée, hors de tout doute. J'ai toujours été prudente parce que je le sais pas et que c'est grave de lancer des accusations comme celle-là. Pour M. Rodriguez, moi, j'ai toujours pensé aussi qu'il a été très négligent. Il faut pas oublier que l'histoire de la soirée de financement chez Emmanuel Cabral, où M. Cabral donnait des centaines à des gens. Oui, puis il l'a même pas nié.
Fait que c'est ça.
Ça, c'est pas correct et ça demeure. Là. Et ça, l'UPAC et le DGE fera les vérifications et ça n'a pas disparu. Mais l'histoire des textos, j'ai toujours eu un petit...
Je comprends ta prudence, évidemment. Je termine là-dessus. Silence, Parti libéral, par exemple. Ça sort des médias, mais il n'y a pas de conférence de presse. Il n'y a pas... Je me trompe-tu,
Mathias? Ben, Marc Tanguay a commenté
ce matin.
C'est sûr que quand tu es en période de travaux parlementaires, les journalistes les accrochent dans le corridor. Donc, ils ont commenté. Eux considèrent... Eux, ils achètent à 100% ce que M. Fournier leur dit, là, c'est la vérité, il n'y avait rien là, tout ça est faux. Voilà.
Oui, ben justement, Marc Tanguay a surtout attaqué le fait que Jacques Fournier se comparait à un chien de chasse édenté. Puis lui, il disait, ben non, c'est exagéré, ce rapport-là, il est véridique, puis ce rapport-là, il est sérieux, puis il montre qu'on a pas mal fait des affaires.
Je pense que les libéraux n'étaient pas très satisfaits du service après-vente.
C'est ça.
M. Fournier, qui n'a pas défendu son rapport autant, de manière aussi rigoureuse et énergique qu'il a fait son enquête, semble-t-il.
Exactement. Donc, à suivre dans le dossier des libéraux, chose certaine, peut-être bien plus le fling-flang d'Ottawa qui a sorti Pablo Rodriguez que des textos.
Ben, puis je termine là-dessus. Mais Marois Risky, qui renvoie la directrice de cabinet sans mettre M. Rodriguez dans le coup, sans même l'histoire que le Journal de Montréal a sortie, elle l'avait tué déjà. Parce que tu sais pas contre quoi tu te défends. Il a eu l'air d'un pic-pic. Il a été très mauvais en communication. Je pense que c'est pas le chef le plus équipé pour faire face à une crise comme celle-là non plus. Mais Marois Risky, ce jour-là, a tué Pablo Rodriguez.
En effet. Antonin Iaccarini, c'est toujours un plaisir. On se parle lundi prochain.
À lundi.
On va avoir une grosse semaine lundi prochain, la semaine prochaine. Là.
Oui. C'est un beau lapsus. On va avoir une grosse semaine lundi parce qu'il y a du stock lundi.
Oui, lundi, ça va être le rapport de la commission Galland. Donc, évidemment, on va parler de ça rien qu'en masse. Puis, on est en train de se monter une bonne brochette de politiciens qui vont venir en entrevue la semaine prochaine.
On va faire un beau tour.
Oui, Anto, tu vas t'amuser. On va notamment parler avec l'homme au tramway de 13 milliards.
13 milliards, hein?
Oui, on va parler avec lui la semaine prochaine, notamment.
Steve.
Ouais, puis on est en train de confirmer plein d'autres belles entrevues pour vous. Alors, on en jase sur Boulevard 102.1. Dans un instant, on va vous prouver qu'on parle beaucoup contre le maire Marchand, et avec raison, parce qu'il prend des décisions quand même assez bizarres, comme fermer des patinoires, déneiger des pistes cyclables. Mais là, on va parler de rigueur de l'opposition, hein, Mathias, parce que... il y a un gros manque de rigueur. Puis si le maire Marchand nous en passe 3-4 comme ça, en dessous de la couverte, peut-être parce que l'opposition fait pas son travail.
Puis ça commence à se répercuter sur plusieurs dossiers, là. Fait qu'on va traiter tout ça un peu plus en détail après la pause.
Exactement. Et dans un instant également, Stéphane Turcot va venir s'asseoir en studio avec nous. Oui, aux Jeux olympiques 2042, je me suis
convaincre.
Positionné. Dans un instant, Boulevard 101, l'émission d'Angers.
Jusqu'à